Aujourd'hui, vendredi, dernière playlist consacrée au festival Les Musiques, organisé par le GMEM, donc le jeu que vous avez pu entendre tout au long de cette semaine à midi. C'est donc une rencontre avec les compositeurs du festival qui nous font partager leur musique, ce qui les émeut, ce qui les titille, aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui, pour cette dernière playlist, deux artistes, Christine Coulanges et Nchan Manoyan, qui font partie donc du duo Sissi Gambis, qui sont le duo Sissi Gambis, et qui ont présenté mercredi soir une rencontre virtuelle sur la route de la soie. Donc il me semble qu'ils vont nous embarquer là, pendant une heure, peut-être, dans des contrées lointaines, plutôt asiatiques, enfin je ne sais pas, ou plutôt en tout cas sur une part... orientale et asiatique du continent, une envie de voyage qui vous mène jusqu'à la friche et qui va nous embarquer pendant une heure assez loin, d'après ce que j'ai compris.
Oui, bonjour.
Christine et Chan.
Donc oui, c'est vrai que la playlist, on a choisi de vous faire écouter des morceaux qui nous ont inspirés à ce spectacle multimédia. Donc on part d'Europe et puis on arrive en Chine en fait. Voilà.
Donc juste pour resituer peut-être le contexte dans lequel vous avez créé et vous avez pensé ce spectacle, c'est sur plusieurs années qu'il s'est construit.
Oui, en fait, on a fait une expédition, c'était en 1999, sur la route de la soie. On a fait Marseille-Shanghai en 6 mois par voie terrestre. Et c'est vrai que c'est la musique qui a conduit cette expédition, puisque c'était aussi une tournée musicale avec le groupe Sabot. Donc nous, on avait pris le parti de filmer, d'enregistrer et de concevoir, entre autres, ce spectacle qu'on a présenté hier soir. Et donc, on avait des points de chute qui étaient des lieux musicaux, des académies, des clubs officiels ou clandestins, des instituts de philosophie et de musique, etc. Donc, c'était vraiment une tournée sur la musique et qui nous a conduit aussi à d'autres sujets, dirais-je.
Mais tout d'abord, ce serait bien peut-être présenter Sissi Gambis rien que dans l'aventure dans les pays de l'Est et l'enregistrement du premier album.
On a choisi d'ailleurs le premier morceau, c'est un morceau qui s'appelle Tibet et qui était sur notre premier album. On a enregistré cet album à Katowice, en Pologne, et c'est vrai que Sissi Gambis a beaucoup vécu en Europe de l'Est pendant 10 ans. Il se trouve qu'on avait des énergies là-bas et les gens rentraient dans la musique d'une manière qu'on n'avait jamais vue dans l'Ouest, en tout cas à l'époque. Et donc on a fait beaucoup de choses là-bas. On a choisi de vous faire écouter ce morceau parce qu'il est aussi en relation, qui s'appelle Tibet, qu'on avait déjà des orientations par la route de la soie à ce moment-là. Et d'ailleurs, Sissi Gambis, c'est le nom d'une reine perse qui avait été emprisonnée par Alexandre le Grand et qui s'est suicidée dans sa cellule à la mort de ce dernier. Voilà.
Ouais, c'est une fin un peu tragique quand même.
Ben oui. On peut peut-être écouter Tibet.
le duo Sissi Cambis donc, qui a choisi de faire sa playlist en commençant par un morceau d'eux-mêmes.
Ben, je crois que tu nous l'avais suggéré oui, aussi.
Tout à
hein,
fait. Donc, et je pense qu'on va terminer aussi.
Du narcissisme du tout. Hein. Donc oui, l'Europe de l'Est, eh bien, ça... En fait, on a passé 10 ans de tournée chaque année dans les pays d'Europe de l'Est et puis en Russie. Et donc là, on avait enregistré au retour d'une tournée en Russie, à Pologne, en Pologne, à Katowice. Et donc, en 1999, on part de Marseille et pour cette tournée, donc République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et on arrive en Turquie qu'on ne connaissait pas. En arrivant à Istanbul, on tombe dans un club underground où un groupe joue dans une scène derrière une cage et il pousse des hurlements, même si c'est vrai qu'on a beaucoup tourné dans des milieux alternatifs et où on a beaucoup entendu des gens crier, mais des cris comme ça, on n'en avait jamais entendu. Après le concert, on les suit dans les loges, on fait une interview, parce qu'en fait, on n'a évidemment pas dit jusque-là qu'on était parti pour filmer, enregistrer. Et donc aussi faire des interviews. Donc on va dans les loges, on fait une interview et là on comprend que chaque jour il risque eh bien, la prison, la torture et même la mort sans doute pour ce qu'ils dénoncent dans leur musique. On va peut-être les écouter. Ils s'appellent Crunch et c'est
j'espère
franchement...
qu'ils sont toujours vivants.
Espérons qu'ils sont toujours vivants, oui effectivement.
Donc un choix assez étonnant quand on sait que ça vient de Turquie. Donc
oui.
On ne s'attendrait pas forcément à ce type de musique provenant de ce pays, puisqu'on connaît évidemment les musiques soufis, ou voire même tout le mouvement électronique qui est en train d'émerger en ce moment.
Mais d'ailleurs, je vais vous faire quelques petites citations de cette musique, donc de Crunch.
Ouais. «
Notre musique est un témoin du sang de guerre qui règne dans ce pays. Notre musique est notre haine contre l'injustice, notre colère contre les exécutions sans jugement, les larmes de centaines de mères dont les enfants ont été tués brutalement et enterrés secrètement par les meurtriers officiels du gouvernement au pouvoir. » Donc ça, c'est issu de l'interview de Crunch après le concert.
Comment, dans vos voyages, se fait le choix des musiciens que vous avez envie de rencontrer ?
Il y a pas, le choix se fait, mais à la fois, ne se fait pas, parce que c'est une, la rencontre, c'est ça aussi, c'est que... C'est pas prévu, ça tombe dessus et on accroche ou...
Bah, en fait, il y avait évidemment, là, c'était prévu. C'est-à-dire, on devait aller dans ce club ce jour-là. On savait qu'il y avait un groupe qui s'appelait Crunch, mais on savait absolument pas la musique qu'il jouait,
ce qu'il défendait.
Donc, le choix, il se fait immédiatement. Et d'ailleurs, on a souvent dit qu'il faut travailler une forme d'anticipation quand on travaille sur le vif, comme ça. Parce que on est passé dans des pays en guerre et tout ça, c'est du réactif sur le coup, quoi.
Et quand on est dans la réalité, on ne peut pas refaire les choses. Donc, il faut être en amont, quoi. Je veux dire, il faut le prévoir...
Ben, d'ailleurs, oui, le coup de la caméra. Une fois que l'événement est passé, si tu te dis, tiens, je vais filmer, c'est déjà trop tard.
Voilà, parce que pendant 6 mois, tu n'as pas assez de batterie ni de cassette pour shooter tout ce qui te tombe
Donc
dans
tu
les
faisais,
yeux, que tu trouves beau. Souvent, tu trouves que c'est magnifique, mais c'est trop tard, c'est fini. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'allumer la caméra pour avoir la fin des choses. Mais par contre, les moments où tu les as, c'est parce que tu as senti que ça allait, quelque chose allait se passer, il ne se passe rien. Mais tu sors la caméra, tu es rec, ça enregistre et là, ça rentre. Et là, tu as un début de quelque chose et une fin de quelque chose. Là, c'est, voilà, et on a travaillé aussi, c'est un principe qui a débordé aussi, que ce soit sur le son ou la rencontre avec des gens. C'est avoir quelque chose en amont comme ça, être en avance sur le temps, c'était important quand même.
Donc en fait, on dit que c'est le docteur Seref Özgür qui travaillait pour le bureau du Premier ministre. On a rencontré des gens très différents d'ailleurs, qui nous dit...
Entre Crunch et le bureau du Premier ministre.
Voilà, c'est ça. Et surtout quand on va dans le bureau du Premier ministre avec les cassettes de Crunch dans la poche, c'est clair qu'on commence à se rendre compte qu'on prend des risques. Et
c'était pas pour leur demander une petite subvention pour le groupe.
Non, pas du tout, non.
Et quand on lui faisait l'interview... Il a vite compris que même si on avait une petite DV, qu'à l'époque c'était encore considéré comme touriste, mais quand il a vu un micro branché dessus et que les questions qu'on posait, c'était simple pour lui comprendre qu'on pourrait le faire ça aussi dans la rue et demander à d'autres gens. Et ce qu'il disait dans les couloirs, moi je comprends un peu le turc, il disait le danger pour notre pays c'est des gens comme ça parce que quand il y a une caméra bêta qui arrive, on sait que c'est une équipe de télé, mais eux c'est qui? Et puis voilà. Ils sortent un micro, une caméra, et puis ils peuvent poser les questions à qui ils veulent. Et ça, c'était le danger pour eux. On était considérés déjà comme ça. Après, on était dans le Mercedes avec les drapeaux sur les côtés, tout, voilà, les flics, et avec toutes ces cassettes sur soi, comme ça, c'était quand
même... Ce qu'il faut dire, c'est qu'on était partis pour la musique, et justement, là, ce qu'on vient d'entendre, à Istanbul, on arrive, et là... Tout chavire, on tombe dans la politique, la religion, la culture et l'histoire. Parce que c'est clair qu'on a été complètement stupéfaits de ce que nous racontaient les gens en Turquie et de l'histoire qu'on y enseigne. Parce que, en fait, apparemment, personne n'a vraiment entendu parler du génocide arménien et personne ne pense que le Kurdistan est un pays qui a existé. Le Kurdistan, ça n'existe pas. On a toujours vécu tous ensemble heureux en Turquie. Et qu'est-ce que c'est ces gens de PKK qui nous posent des bombes et qui veulent nous prendre nos terres? Donc tout
et
ça
en 99,
est un petit peu...
c'était l'arrestation de Öcalan et le PKK posait des bombes, évidemment, partout dans Erzurum et partout dans la Turquie. Et ça a explosé...
Voilà, oui, partout en Turquie. En fait, tout simplement pour dire, on est arrivé en Turquie et Öcalan est arrêté et tous les jours, les bombes explosent et c'est la guerre civile, en fait. Donc nous, on se promène dans un 4x4 avec du matériel et qu'on se fait arrêter parfois encerclé de militaires doigts sur la gâchette. Là, on ne fait pas un geste et on dit « on fait une tournée musicale ». Et là, ils ne nous croient pas du tout. Donc, ils commencent à ouvrir et à voir qu'effectivement, on a des instruments de musique et qu'on est attendu dans des théâtres nationaux, bien heureusement pour nous. Parce que sinon, à Erzurum, par exemple, on s'est fait arrêter par la police et ils nous ont justement pris pour des membres de PKK. Erzurum, c'est une ville stratégique entre la Géorgie et l'Arménie. Et il se trouve qu'ils filmaient par la fenêtre. On est passé devant un bâtiment militaire. Et en plus, on avait au poignet des porte-bonheurs qu'on nous avait donnés en Roumanie. Et la veille, deux Roumains s'étaient fait exploser en posant une bombe. Donc voilà quoi. Et heureusement qu'on poursuivait notre tournée musicale. Parce qu'encore une fois, c'était bien difficile à croire dans un tel contexte.
Bien, donc c'était l'aventure complète pendant... Ça a duré combien de temps, ce voyage en Turquie?
En Turquie, on est resté plus longtemps que prévu en Turquie parce qu'en fait, on avait demandé des visas de l'Iran déjà avant de partir et on devait les récupérer à Ankara. Puis il se trouve que c'était tous les jours « tomorrow ». Donc demain, ça a duré 3 semaines. Et puis finalement, nous, on a eu des visas de transit, mais nos deux amis américains n'ont jamais eu de visa pour l'Iran. Et pour cause des bombardements déjà en Irak, ce n'était pas encore à la une des journaux, mais en tout cas, ils ne l'ont jamais eu. Ce qui fait qu'on a dû renvoyer la voiture qui était à leur nom. C'était assez compliqué parce que la voiture était tchèque, ils étaient américains. Et nous, on était français. Donc déjà, le douanier à la frontière turque a dit « cocktail ». Donc voilà, la voiture est restée en Turquie, elle est repartie en Allemagne en bateau, et nous, on a survolé le sol iranien jusqu'à Karachi et continué par les transports en commun. Mais avant de partir au Pakistan, donc, c'était le docteur Seref Özgor, donc démographe, qui nous disait « L'Anatolie est juste un pont entre l'Asie et l'Europe. Certains ne font qu'y passer, et en passant, ils amènent un peu de leur culture et prennent un peu de la nôtre. » Alors on va écouter Hasan Güler. C'est un chanteur traditionnel et qui joue du tar aussi, qu'on a rencontré à Sivas, donc en Anatolie. Et là, on avait une grande rencontre avec beaucoup de musiciens traditionnels qui avaient été réunis justement pour qu'on puisse travailler ensemble, enregistrer. Ils ont aussi travaillé avec Sabo et fait un concert. Ben voilà, on va écouter. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la plupart de ces musiques, on les a enregistrées. Et puis, des fois, elles vont avec des images. Donc là, vous avez pu entendre des chevaux avec, et, parce qu'il y a une image qui lui correspond, en fait.
Voilà, il n'a pas eu que le travail de sampler des musiciens, d'enregistrer les musiciens séparément ou ensemble. Il a eu aussi tout un travail dans les villes, les ambiances des villes.
Parce que documentaire.
Voilà, parce que quand on voit le son change, et c'est une couleur que c'est vrai que quand vous entendez les klaxons de Pakistan, Karachi par exemple, c'est les klaxons de Karachi, vous ne l'entendez pas ailleurs. Quoi, je dis, voilà, c'est vrai qu'il y a des ambiances uniques comme ça dans chaque pays.
L'idée de partir avec micro, caméra, enfin matériel léger, mais quand même un matériel conséquent, pour essayer de laisser... Ben justement, l'idée, c'était de vouloir laisser une trace de votre voyage pour mémoire aussi, et en faire et témoigner de ce que vous avez vu et entendu ici en Europe. C'était aussi ça, l'idée?
Ben, tout à fait. En fait, on est parti... quand on parle aujourd'hui de projet multimédia, je crois qu'on est parti avec cette idée-là et aussi multi-support. Et c'est clair qu'aujourd'hui, le projet le plus abouti, c'est ce qu'on a fait hier soir. C'est un spectacle avec une exposition. Mais il y a un travail énorme qui n'est pas encore réalisé, qui est justement de cet ordre-là, du documentaire et aussi du patrimoine, je dirais. C'est clair que c'était la dernière année du XXe siècle et la dernière année du millénaire. Et il y a quelque chose qu'on a senti très fort. Et c'est évident que c'est un témoignage de tout ça. Et donc d'ailleurs, on a rencontré il y a très peu de temps une ethnomusicologue du Musée de l'Homme qui a été très intéressée par ce travail, parce que justement, c'est peut-être, un patrimoine. Donc après, il va falloir trouver les voies pour pouvoir le mettre aussi à la disposition des autres, quoi, et le faire partager, parce que c'est clair qu'on n'a pas ramené tout ça pour le garder dans notre studio, quoi.
Et c'est bien pour ça que vous êtes venu aussi à la radio pour nous faire écouter les musiques que vous avez rencontrées. Mais alors, vous saviez, quand vous étiez sur place, vous aviez une idée de ce que vous alliez en faire ou de quelle forme ça allait prendre, par exemple, le spectacle de mercredi soir, ou pas du tout? Vous partiez en vous disant, bon, on verra.
Non, on avait des idées dès le départ, et c'est vrai qu'on tournait chaque chose, on savait quel projet on poursuivait, à quel moment, quoi. C'est clair que quand on faisait des interviews, c'était pas pour le spectacle. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi des images et des sons qui peuvent servir à plusieurs usages, je dirais.
Il y a des choses qui sont nées aussi pendant le voyage, parce que qu'on ne pourrait pas penser avant, c'est quand on commence à voir et qu'on sait qu'on va avoir une multitude de ça. Exemple, les arrêts de bus, par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait du début du voyage jusqu'à la fin, de filmer les arrêts de bus dans chaque ville et dans chaque pays. Voilà, c'est des choses qui viennent aussi sur le coup parce qu'on sait qu'on va rencontrer, parce qu'on va faire la route. Et il y a aussi beaucoup de séries comme ça, c'est pas le beau mot que j'aimerais employer, mais regroupées comme ça, qui donnent un paysage énorme, quoi.
C'est vrai que... Ce qu'il y a, c'est que quand on fait le trajet Marseille-Shanghai par la route, eh bien, on a tout ce qui est entre aussi les pays. Et on n'arrive pas direct dans une ville, mais il y a tout
les
ce qui...
frontières.
Il y a les frontières. D'ailleurs, bon, on a pas mal de frontières filmées aussi, ce qui n'était pas tellement...
Ça ne devait pas être évident, ça, parce que les douanes, généralement, n'aiment pas trop les caméras.
Ouais,
non, mais en fait, on a plus ou moins cherché à se dissimuler et à prendre... Enfin, à faire partie du paysage autant qu'on pouvait, suivant où on était. Donc,
non, mais surtout, l'essentiel, c'est quand on quitte un pays, vers la fin, on sent qu'il y a une modification qui se fait. Et après la frontière, il y a cette modification qui évolue, mais dans l'autre sens, pour arriver dans un autre pays. En fait, c'est ce changement comme ça. Ça ne change pas brutalement. Ce n'est pas parce qu'on est passé la frontière que ça y est, c'est autre chose. Non, on sent cette évolution sur plusieurs kilomètres, quoi, je dirais.
Et puis, c'est les physionomies. Par exemple, la route du Karakoram, on est parti de Islamabad au Pakistan jusqu'à Kashgar en Chine. On a mis une semaine à monter l'Himalaya. C'est dans le Cachemire. Entre le Pamir et l'Hindou Kush. Et là, vraiment, peu à peu, les physionomies changent et les costumes,
les décors.
Et puis la nourriture et puis les coutumes, en fait, et la religion, puisqu'on passe aussi des musulmans aux bouddhistes. Donc c'est tout ça qui nous intéresse aussi. C'est pas d'aller se... quelque part uniquement, mais c'est le parcours, en fait.
Le voyage.
C'est la différence de faire un avion ou par la route.
Moi, j'avais envie de vous demander quand est-ce que commence le voyage et quand est-ce qu'il se termine.
Comment ça?
Pour vous, justement, là, est-ce que vous êtes toujours en voyage, par exemple?
Ben oui, je crois. Hein, de toute manière, il me semble que tant qu'on n'aura pas terminé tout ça, on sera toujours... Et puis, en même temps, on va présenter ce spectacle ailleurs. L'année dernière, on était à La Réunion, en Malaisie, et c'est clair qu'on poursuit aussi cette démarche aujourd'hui plus axée vers l'océan Indien et aussi les cultures et les musiques différentes toujours. Mais on va peut-être passer au Pakistan, donc... Et là, on va écouter de la musique populaire, en fait. Et c'est la musique qu'on entend partout. Alors, dans les bus, qui sont absolument incroyables, sont des véritables œuvres d'art. Les bus au Pakistan, complètement peints, avec des miroirs, des grelots. Les vitres sont ouvertes et la musique à fond. Donc, on va écouter.
Thank you.
Vous êtes toujours en compagnie de Christine Coulange et Chan Manoyan du duo Sissi Gambis qui nous présente ici une playlist originale dans le sens où ce sont pratiquement que des morceaux que vous avez enregistrés vous-même sur place lors de votre périple sur la route de la soie il y a quelques années. Enfin, on est dans un temps qui se situe entre début des années 90, on va dire, jusqu'à maintenant, donc sur une période qui est assez longue.
Non, enfin là, c'est vrai qu'au début, on parlait de notre aventure en Europe de l'Est, mais là on a quand même... Oui, remarque, oui, mais là, on est, ouais. Là, on est dans la route de la soie. Là
on est plus proche.
C'est février à juillet 99.
Ah oui, oui, enfin, c'était quand même il y a quelques années. Et donc, à l'écoute de ce morceau qui est pakistanais, donc, évidemment, on entend des sonorités indiennes, la façon de chanter est très Bollywood. Et est-ce que vous avez remarqué, comme ça, dans votre voyage, des liens... des rapprochements, on va dire, musicaux entre des cultures qui sont proches géographiquement, mais qui pourtant peuvent avoir aussi des différences dans l'histoire. Enfin, l'Inde et le Pakistan, c'est pas une histoire forcément simple politiquement, mais à l'écoute là de ce morceau, on se dit là, c'est évident que il y a une culture commune.
Non, mais de toute façon, c'est évident. La musique pakistanaise et la musique indienne, c'est vraiment la même, quoi. Ouais. Et ça va jusqu'à aussi la Malaisie avec d'autres.
C'est les mêmes. C'est juste une question de religion, quoi. Non, c'est tout.
Mais le Pakistan, il y a une histoire politique. Je veux dire, le Pakistan, c'est 1947. Je veux dire, c'est très très récent, donc c'est clair que leur histoire, ils l'ont en commun, et certainement l'histoire de la musique. Donc, mais justement, à Lahore, donc Lahore qui est à même pas 100 km, la frontière est à 50 km de l'Inde en fait, et c'est à 90 km de Delhi en Inde. Donc Lahore est au Pakistan. On a rencontré Raza Kazim qui est. Qui a fondé une école de musique, c'est un institut de philosophie et de musique, donc, et basé justement sur la quête philosophique et musicale des musiques traditionnelles, en fait. Lui, il a créé un instrument qui est unique au monde, qui s'appelle le sagarvina, c'est vraiment dérivé des vina et des sitars, et c'est un instrument absolument magique et merveilleux. Je peux vous... Alors donc sa fille, en fait il n'y a que sa fille qui joue de cet instrument qui est unique. Donc espérons que les petits-enfants joueront après parce que donc elle est seule au monde.
Incroyable.
Je peux peut-être vous donner... il a mis 30 ans pour créer cet instrument parfait, disons, comme lui l'imaginait. Il l'a peaufiné comme ça pendant 30 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il est parfait, il pense. Donc oui, il dit que la quête philosophique est basée sur des questions fondamentales pour lesquelles l'être humain a toujours cherché des réponses. La musique a toujours été aussi l'outil premier de l'échange émotionnel et de la communication pour les gens qui vivent dans cette partie du monde. Donc l'Inde, le Pakistan et puis le sous-continent indien en fait. Les sons musicaux ont été utilisés pour compenser les manques de l'expression verbale, pour faire résonner les expériences les plus profondes et les plus intérieures. Et ça, c'est vrai que ce sont des propos qui nous ont complètement chavirés. On a justement fait de longues interviews avec Raza Kazim, vraiment passionnantes. Et en fait, il nous a aussi dit quelque chose qui nous a retourné, c'est qu'il nous a dit « Vous, dans l'Ouest, pour vous, la grande musique, c'est la vôtre ». Et tout le reste, vous le classez dans un bac qui s'appelle « Musique du monde ». Donc voilà, ça porte un petit peu à réflexion quand même.
Oui, comme dans les autres pays, Jacques Brel fait partie des musiques du monde aussi. Hein, donc forcément, c'est un échange. Alors, on continue vous avez quelque chose à écouter de Lahore ou...
On va peut-être écouter Nourzera et cet instrument, justement. C'est ça qu'on veut vous faire écouter.
Allons-y. Christine, est-ce que tu peux nous rappeler donc le nom de cet instrument qu'on vient d'entendre, qui a une sonorité qui ressemble effectivement au sarod ou à la sitar, enfin, en tout cas qui est un instrument à cordes avec une résonance derrière?
C'est le sagarvine et c'est Nourzera Kazim qui joue.
Longue vie donc à cet instrument, en espérant peut-être qu'un jour il y ait d'autres musiciens qui viennent jusqu'à nous aussi nous présenter.
C'est dans ce projet aussi de pouvoir peut-être un jour inviter aussi les personnes qu'on a rencontrées pour pouvoir aussi faire des collaborations ensemble.
Donc en fait après Lahore, il y a eu Peshawar, c'était en mai 99 et l'Afghanistan était occupé par les talibans. Peshawar, c'est la ville frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Donc on a vécu là-bas des choses assez impressionnantes. C'est vrai que quand on est parti, on se posait beaucoup de questions sur ce qui se passait dans ce pays et vu d'ici, on comprenait strictement rien. À Peshawar, il a fallu 2 heures d'interview avec un réfugié afghan pour comprendre ce qui se passait. Et voilà, on se rend bien compte qu'en allant voir sur place et en parlant avec les gens, on comprend peut-être mieux que devant les infos à la télé.
Ça, je pense qu'on en est tous persuadés. C'est sûr.
Donc après Peshawar, ben c'est la route du Karakoram, et donc on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est cette route millénaire, en fait, elle existait dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, et c'était vraiment le passage de la route de la soie. En fait, ça s'appelle même Karakoram Highway, mais ça n'a rien d'une autoroute. Par moment, c'est chemin de pierre avec des éboulis, et le bus passe très 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 vite au bord du précipice pour passer, quoi.
Pas de vitres, t'es en plein air, c'est super beau.
Donc voilà, on a fait ça encore une fois.
Un moment de vertige.
Ouais. Et on va peut-être passer maintenant dans un monastère tibétain, en fait, où on a enregistré des moines. Alors les moines tibétains ne sont pas du tout austères, et c'est vrai qu'avant d'y aller, on pensait que ça avait ce caractère austère comme on imagine ici les monastères, mais pas du tout. Les moines sont très sympathiques et se prêtaient beaucoup au jeu avec nous, même si on était aussi suivis par la police chinoise, ce qui était moins sympathique. Mais on va vous faire donc écouter un moine tibétain qui était devant un temple, et ça s'est passé vraiment dans le naturel des scènes de la vie quotidienne.
Donc, scène de la vie quotidienne dans un monastère au Tibet. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ? C'était une prière ?
Oui, en fait, il était devant le temple, seul, et il chantait. Donc, assis en tailleur, et puis on est allé lui placer un micro, etc. Il a bien vu qu'on le filmait, puis il s'est complètement prêté au jeu. Il a continué, en fait.
Après, on lui a montré quand même, il a vu... Il a bien rigolé aussi.
Parce qu'après, ils nous ont invités. Donc après, il y a un ami à lui qui nous a rejoints. Et puis, ils nous ont invités chez eux, dans la montagne, dans une maison en bois, une petite maison en bois. Ils nous ont fait du thé. Et en fait, on ne pouvait pas parler puisqu'ils ne parlaient pas anglais. D'ailleurs, les Tibétains n'ont pas le droit d'apprendre l'anglais.
Et rencontrer les étrangers.
Encore moins, d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, ils nous ont invités. Et c'est vrai qu'on leur a montré ces images et ça les faisait beaucoup rire. On essayait de leur expliquer le projet qu'on menait et ils étaient éclatés de rire, en fait.
Bon voilà, s'ils savaient qu'ils viennent les diffuser sur Radio Grenouille.
Ben ouais, c'est vrai qu'on a essayé de reprendre contact. On avait quand même gardé ce qui nous semblait être une adresse, mais là c'était vraiment impossible. Disons qu'il y avait un lama qui parlait anglais et avec qui on voulait rester en contact, mais en fait on lui a écrit plusieurs fois, mais il nous semble que les lettres n'ont jamais dû lui parvenir et du coup le contact est rompu là carrément quoi.
Et c'est des extraits aussi qui sont intégrés dans la performance. Dans la composition qui sert pour la performance.
Alors parfois, justement, sur l'utilisation de ces morceaux, enfin des moments de vie comme ça, et donc de les décontextualiser de l'histoire, du pays, de la culture, comment vous avez travaillé ça aussi, toujours dans le respect, bien sûr, j'imagine, de leur art, donc... C'est difficile parfois de...
On décontextualise rien du tout en général. C'est-à-dire que là, quand il apparaît dans le spectacle, d'ailleurs, il n'y a que lui et il chante. Et il n'y a rien d'autre, en fait, si ce n'est la rivière, puisqu'il y avait effectivement une rivière. Et donc, on a retravaillé les ambiances.
Voilà, l'ambiance qui est autour. Donc,
Mais c'est vrai qu'il y a une séquence qui est sur le monastère tibétain, mais on est dans le monastère tibétain et on ne s'envole pas ailleurs, quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est clair qu'on respecte totalement les matières aussi, parce qu'elles véhiculent pas mal de choses, quoi. c'est pas nous qu'on met en avant dans ce spectacle, encore une fois, ce sont des personnages qu'on a rencontrés, dont ce moine tibétain, et tout le respect pour eux. Hein.
Parfois, il y a des choses aussi qui se croisent, mais à la fois, c'est aussi le travail, tant mieux, parce que c'est aussi cette confrontation qui fait qu'il y a des choses qui naissent.
Oui, c'est-à-dire que vous l'avez rencontré, voilà, ce moine, il vous a vu, il vous a entendu.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Donc il peut y avoir une trace de cette rencontre.
Voilà, ou quelqu'un qui vient, qui joue une flûte, il te joue la flûte et tu l'enregistres. Et puis après, tu utilises, si tu as envie de mettre un rythme avec, c'est ce travail-là après qui va devenir intéressant, qui donne une composition. Voilà, c'est intéressant aussi.
Oui, la décontextualisation, si on peut dire, se fait dans la composition musicale, mais c'est aussi beaucoup d'orchestrer les sons de la nature et de la vie quotidienne dans notre musique. Donc voilà, en fait, les prises de son, on les fait hors cadre, autour de l'image, pour pouvoir recréer après, au montage, une ambiance, une atmosphère et jouer des éléments séparés. Donc,
une transformation aussi, un klaxon peut devenir comme des cuivres qui... Voilà, toutes ces transformations aussi qui fait le lien entre les tempos, voilà, pour parler du temps.
Donc on va peut-être avancer dans le temps et dans le voyage. Et on va se retrouver à Lijiang, c'est dans le sud-ouest de la Chine. Et là, on a enregistré et rencontré les musiciens Naxi. Ils sont donc des descendants des nomades tibétains. Et ils sont, ils étaient seuls en Chine, peut-être plus aujourd'hui, mais à jouer des pièces qui datent de la dynastie des Tang. C'est du 7e au 10e siècle. Et quelques titres de leur musique, c'est « Laisser l'âme prendre un bain »,« Vague lavant le sable ». Voilà. En fait, ils sont très, très vieux. Ils jouent en costume traditionnel absolument magnifique. Et l'histoire, c'est qu'ils ont tous été arrêtés pendant la révolution culturelle et emmenés dans les camps de travail. Ils avaient enterré leurs instruments, qu'ils ont ressortis après. Et en 1987, ils ont créé l'Académie de musique Naxi à Lijiang. Depuis, existe cette académie et on peut les écouter. Malheureusement, ils sont très, très vieux et j'espère que la descendance prendra la suite parce que c'est quand même assez unique, leur histoire et leur musique.
Donc on est parti en Chine avec le duo Sissi Gambis, Christine Coulanges et Chan Manoyan, qui ont présenté mercredi dernier, je le rappelle, dans le cadre du Festival des Musiques, une rencontre virtuelle sur la route de la soie. Donc avant d'écouter justement un extrait de leur travail actuel, ils nous font partager leur rencontre musicale pendant ce voyage. Donc là, on était en Chine, donc c'est un choix plutôt traditionnel, enfin en tout cas c'est une rencontre... la Chine, vaste pays, est-ce que vous avez voulu rendre compte aussi de la Chine moderne, contemporaine, bouillonnante, ou est-ce que vous vous êtes dit non, c'est peut-être pas cette image-là qu'on veut donner ou...
En fait, ça, cela n'apparaît pas du tout dans le spectacle, mais tout ça, on l'a bien évidemment. Quoi.
C'est inévitable.
Voilà, donc après, voilà, sur les choix...
En fait, par rapport au spectacle, on s'est concentré déjà sur l'Asie centrale et orientale et sur les cultures traditionnelles. Et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment le choix, un parti pris de départ. Et parce qu'aussi, on a eu l'impression quand même de faire un voyage dans le temps et de se retrouver dans des temps que l'on ne connaissait pas. Et ça n'a rien de péjoratif de dire que par moment, on se serait cru au Moyen-Âge. Mais au contraire, quoi, c'est absolument incroyable de se retrouver dans une autre époque. Et d'ailleurs, on va peut-être enchaîner avec ça, c'est que Kashga, on a choisi un morceau encore très populaire qu'on écoute dans les restaurants où les gens dansent le soir. Kashga, c'est une oasis du désert du Xinjiang. Le Xinjiang est une province chinoise, c'est la plus étendue, elle fait 16% du territoire et elle est peuplée de Ouïghours musulmans. D'ailleurs, qui se sont toujours affrontés aux Chinois qu'on appelle Han. Ce
n'est pas une région qui revendique un peu une indépendance ?
Complètement. Ouais. Complètement. Il y a d'ailleurs aussi beaucoup de problèmes, et toujours. Hein, et on n'en entend jamais parler, d'ailleurs, ici, évidemment. Et c'est un carrefour d'Asie centrale où on rencontre des commerçants. Il y a un grand bazar d'Asie centrale où essentiellement le moyen de locomotion est l'âne, le cheval, les charrettes. Donc, dans ce marché, c'est absolument incroyable, le concert d'ânes et de chevaux et de bruit de charrettes.
Et les marchands qui crient.
Ouais. Et parfois avec des porte-voix qui saturent, c'est incroyable. Et donc, les commerçants venus de toute l'Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, de la Mongolie, des nomades, des Tibétains, des Pakistanais, des Hindous. Enfin bon, bref, je m'arrête parce qu'il y en a mais énormément. Donc on va peut-être écouter. Et c'était pour dire que dans cette ville, on se serait cru à l'autre extrémité du monde et dans une autre époque.
Et vous y étiez ?
Oui, complètement.
Donc transporté dans la province de Xinjiang en Chine. Bon, on fait un voyage dans le temps, mais ils ont quand même la boîte à rythme. Hein.
Oui, tout à fait. Et des claviers.
Avec un petit côté fleur bleue.
Oui, oui, oui.
Donc la fin de cette émission approche à grands pas. Peut-être deux mots autour de spectacles que peut-être vous avez pu voir mercredi dernier donc à la Friche. À partir de toutes ces matières que vous avez recueillies, vous vous êtes donc retrouvé dans un studio. Entre quatre murs, comment s'est passée la construction de l'écriture de ce spectacle ?
Eh bien, c'est une interaction en fait entre la composition musicale et la réalisation audiovisuelle. Donc, ça s'est passé sur un temps assez étendu.
Vous avez suivi l'ordre chronologique de votre parcours ?
Pas complètement, mais en tout cas, on n'est pas illogique, encore une fois, par rapport aux séquences, et on ne mélange pas les images du Pakistan et celles du Tibet, par exemple. Voilà. Donc, il y a une cohérence, et en même temps, il y a beaucoup de choses préparées, et il y a beaucoup de live aussi. Donc, je crois que c'est un spectacle qui se développe petit à petit, hein. C'est pas une création sur un an, c'est... En fait, on a commencé en 2002 où on a présenté une maquette à la Friche. Et puis ensuite, il y a eu une présentation à Beaubourg de la création. Et depuis, eh bien, on a joué le spectacle dans différents endroits et festivals. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une évolution. À chaque fois, on recale des choses. Et puis c'est jamais pareil, quoi.
À chaque fois, c'est différent parce que déjà, le lieu est différent. Et présenter un projet comme ça, d'installer dans un lieu, forcément, il y a des choses qui changent. Et ça fait aussi avancer le...
Alors, on va se quitter justement avec un extrait de votre spectacle.
D'accord.
Qui s'appelle Rencontre virtuelle sur la route de la soie.
Voilà. En fait, on a fait un petit montage pour vous donner une idée de cette musique. Donc, ce n'est pas un morceau, mais c'est un montage de tous les morceaux pour vous donner une idée. Et puis, si on peut dire quelque chose pour conclure, c'est que c'est vrai qu'on a mis 6 mois par la route pour arriver à Shanghai et on a mis 12 heures en avion pour rentrer en Europe. Et je crois que ce choc a été énorme. Ça a été le plus grand choc de tout le voyage. On s'est rendu compte que notre société a établi des codes sur lesquels elle fonctionne, mais ces codes-là ne sont pas pareils partout sur la planète. Et c'est pour ça qu'on utilise une phrase qui nous est venue au retour, c'est « Suivant où l'on se place, le monde nous apparaît différemment ». Voilà, merci beaucoup et à bientôt.
Merci Christine et Chan. Donc c'était le duo Sissi Gambis sur les ondes 3-8.